ערב טוב. Merci à la famille Lévy de m'accueillir une fois de plus. Et bien sûr, que ce chio soit l'Eloui Ishmael, mon papa, Rabbi Shimon ben Aïcha. Je le dédie spécialement à mon frère parce qu'il s'appelle Shimon et je vais parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire de l'Agba Omer, vous l'avez compris, nous sommes dans une période qui relie, et non pas qui sépare, Pessah de Shavuot. Cette période est une période de 7 semaines. Et la fête vers laquelle nous allons, qui est Shavuot, s'appelle Shavuot car elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de date. Et elle n'est même pas marquée dans la Torah. Autrement dit, on ne fait que compter 49 jours à partir de la sortie d'Égypte. Et une fois qu'on a traversé ces 49 degrés, 49 jours de Sphirat HaOmer, nous arrivons à la 50e porte, celle qui n'est même pas dans le compte. Alors que la Torah dit clairement, vous allez compter 50 jours. Pourquoi on ne compte pas le 50e jour? Parce que le 50e jour n'est pas dans le monde des comptes. C'est comme le 8 par rapport au 7. Le 7 est au niveau de la nature, le 8 est au-delà de la nature, donc il n'est pas dans le compte. On ne peut pas compter quelque chose qui n'est pas dans les mesures de ce monde. Et les mesures de ce monde, c'est le chiffre 7, 7 fois 7, 49. Donc le 50, c'est encore une fois, comme le 8 par rapport au 7, c'est un degré supérieur. Et dans la Torah, on appelle ça le jubilé, le yovel, c'est la 50e année, parce que justement, nous sommes dans un monde de liberté, où les esclaves sont libérés d'une manière générale, où l'homme est libéré parce que la 50e porte libère l'homme de tout esclavage. À condition, bien entendu, de connaître cette 50e porte et de l'utiliser. La plupart des gens vivent dans le rythme du 7 et restent au niveau du 7. Ils n'arrivent pas à dépasser le 7. Ils sont un petit peu aseptisés dans le numéro de la nature. Donc ils ne peuvent pas dépasser ni le temps, ni l'espace, ni l'être qu'ils sont eux-mêmes. Ceux qui touchent, qui ont la chance de toucher la 50e porte, vivent en parallèle sur deux mondes et simultanément. C'est-à-dire qu'ils sont pas une fois là-bas, pas une fois là-bas. Ils sont tout le temps entre ces deux mondes, dans les deux mondes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il voit quelque chose dans ce monde, il le voit au moins avec deux façons de lire, deux lectures différentes. Une qui montre l'aspect superficiel extérieur, qui est important, et l'autre aspect qui est caché, et qui est l'énergie en fait, de ce degré superficiel. Cette 50e porte, c'est la fête de Shavuot. Donc elle n'a pas de nom, elle n'est que 50 jours après Pessah. Et donc, s'il n'y a pas de Pessah, il n'y a pas de Shavuot. Vous comprenez bien. Shavuot, c'est le don de la Torah. Pessah, c'est la libération du peuple d'Israël en tant que nation. Donc, tant que nous n'avons pas de nation, nous ne pouvons pas avoir de Torah. Je vais un petit peu plus loin. Tant que nous ne sommes pas libres au niveau national, on ne peut pas atteindre le niveau de la Torah. Et quelle est la distance qu'il faut pour atteindre le niveau de la Torah après la sortie d'Égypte? 5 ans. Autrement dit, il faut s'éloigner de l'Égypte au moins de 50 degrés. Donc si tu ne t'es pas éloigné de ta propre prison, car l'Égypte n'est pas seulement un pays, mais un état de conscience qui emprisonne l'homme et la femme, tant que vous n'avez pas pris de distance assez grande par rapport à Pessah, par rapport à l'Égypte, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. En d'autres termes, les hommes qui ne sont pas libres qui n'ont pas une liberté de réflexion ne peuvent pas recevoir la Torah. Jamais. Les gens qui sont sclérosés dans un système, même de Torah, de religion, entre guillemets, sont bloqués et ne peuvent pas évoluer. Malheureusement, ça se voit pas chez ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, simplement, mais aussi chez ceux qui ont l'impression qu'ils sont sortis d'Égypte, mais qui n'ont rien développé. Ils sont encore emprisonnés, ils n'ont pas retrouvé leur propre identité. Je veux dire, même dans une lecture de Torah, les gens qui ne savent pas étudier de par eux-mêmes, et qu'à chaque fois qu'ils ouvrent un livre, ils vont immédiatement voir les commentateurs, ce n'est pas de l'étude. D'accord ? Parce qu'en réalité, les commentateurs, eux, ont fait le travail à leur place. Donc, eux ne savent pas étudier immédiatement qu'est-ce qu'il a dit Rashi, qu'est-ce qu'il a dit machin, qu'est-ce qu'il a dit. C'est la meilleure façon de comment faire. Comment te faire taire pour te bloquer dans ton étude. Donc, messieurs, ça s'adresse un petit peu plus aux hommes. Ne plongez pas immédiatement dans les commentateurs. Essayez d'étudier avec votre cerveau, avec votre cœur. Et après seulement, une fois que vous avez fait votre effort, d'aller voir ce que le commentateur a fait. Parce que Rashi n'avait pas de Rashi. C'était lui. D'accord ? Donc soyez un nouveau Rashi. Et après, vous allez voir si votre réflexion touche à ce qu'un grand d'Israël a un jour dit. Le monde dans lequel nous sommes, donc, c'est justement Pessah et Shavuot. C'est-à-dire nous sommes, le peuple d'Israël, entre ces deux Paul, sorti d'Égypte, essence première de notre libération nationale, sans la sortie d'Égypte, on n'était pas. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le peuple d'Israël apparaît. Donc, la sortie d'Égypte est mentionnée tout le temps. À chaque fois que nous faisons un kiddush, même si c'est Shabbat, même si c'est Rosh Hashanah, nous disons « Zecher le'yetziat Mitzrayim » en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc c'est la clé de notre existence. Sans la sortie d'Égypte, on n'existe pas. Donc, sans le côté national de notre peuple, on n'a pas le côté toranique de notre peuple. Moralité, la conclusion, c'est qu'il faut être national religieux. Nationaliste religieux. Ce qu'on appelle les Oumis d'Ati, et non pas d'Ati les Oumis. Parce que quand vous dites Dati le Oumi, c'est que vous avez effacé la Torah avant la nation, et ça aussi c'est déjà une faute. Vous êtes d'abord une nation qui applique les lois de la Torah, et d'ailleurs la nation est avant la Torah. C'est Eliyahu HaNavi qui le dit dans un Midrash très 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 connu, où il dit qu'au départ il croyait que la Torah était la première chose dans ce monde, mais qu'il a compris que c'était Israël. Et parce qu'il y a Israël, il y a une Torah, et pas l'inverse. Pessah donc, Shavuot. Au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Le mois de Iyar. Le mois de Iyar est un mois très spécial dans l'année. C'est le mois dans lequel nous sommes. C'est un mois qui a vu l'invention d'une fête dans la Torah. Une fête qui n'existait pas. On appelle ça Pessah Sheni, pas Yom HaAtzmaut. Pessah Sheni, Yom HaAtzmaut, c'est pas dans la Torah. Pessah Sheni, c'est dans la Torah. Qu'est-ce que c'est Pessah Sheni ? Pessah numéro 2, rattrapage. Si quiconque a raté le premier Pessah, Pessah, c'est pas la fête de Pessah, mais le Korban Pessah, eh bien on lui donne une chance, parce qu'il était impur, parce que plusieurs raisons, peu importe maintenant, eh bien on lui donne un Pessah numéro 2. C'est bizarre. On n'a jamais vu un Sukkot numéro 2, on n'a jamais vu un Pourri numéro 2, ni un Sukkot numéro 2, ni un Pourim, ni un, peu importe, Hanouka numéro 2 ou ce que vous voulez. Il n'y a pas de fête numéro 2. Pourquoi ? Seulement pour Pessah, il y a Pessah Sheni. Mais tout simplement, comme je viens de vous dire, les hommes d'Israël qui n'ont pas fait le Korban Pessah n'appartiennent pas à la nation. Et donc s'ils n'appartiennent pas à la nation, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Et donc ils ont compris que sans être nationaliste, on ne peut pas être religieux. Et donc ils sont venus se plaindre chez Moshe Rabbeinu en lui disant « Kadosh Baruch Hu ne peut pas nous sortir, on n'est pas extrait de notre peuple. Moi, je veux faire partie de ma nation. Donc si je ne sors pas d'Égypte, comment est-ce que je veux recevoir la Torah ?» Ça ne s'est pas passé la première année, hein, ça s'est passé la deuxième année dans la sortie d'Égypte. Parce que la première année, ils ne savaient même pas qu'ils allaient recevoir la Torah. Mais la deuxième année, on sait déjà que existe la fête de Shavuot, qui est 50 jours après Pessah. Donc ces hommes sont venus chez Moshe, et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ils ont raison. Il faut leur inventer quelque chose. Mais en fait, c'est eux déjà qui l'ont inventé. Autrement dit, c'est une fête qui est venue par la force de l'homme, du désir, du languissement. Je veux être associé à ton œuvre divine. Jusqu'à maintenant, toutes les fêtes nous tombaient d'en haut. Pessah nous tombe d'en haut. On nous a fait sortir d'Égypte. Ceux qui étaient prêts à sortir, on les a fait sortir, mais ils étaient complètement passifs. Même l'ouverture de la mer, Dieu dit clairement au peuple d'Israël, « Hachem yillachem lachem ve'asem tacharishun. » C'est moi qui me bats pour vous, vous ne faites rien. Autrement dit, c'est une insulte à l'humanité. Vous comprenez que lorsque Dieu nous dit « ne faites rien, je fais le travail à votre place », ça veut dire « vous êtes des incapables ». C'est ça que ça veut dire. Les religieux prennent ça comme un avantage, si Dieu nous fait des miracles. Mais pas du tout. Ça veut dire que c'est tellement nul que moi, l'Éternel, je suis obligé de faire le travail à ta place. Vous comprenez comment on peut voir la Torah ? Eh bien, c'est exactement comme ça. Alors, les hommes qui sont de vrais hommes disent à Kadosh Baruch Hu, ça ne marche pas comme ça. Nous, on veut être associés. Si on n'est pas associés, ça ne nous intéresse pas. Bien joué, dit à Kadosh Baruch Hu, je vais vous donner une fête qui est la vôtre, en fait. Pessah Sheni. Quand est-ce que ça va se passer ? Le mois de Iyar. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons deux rédemptions. La première et la deuxième. Et c'est incroyable parce que ces deux rédemptions sont en réalité calquées sur jusqu'à la fin des temps, où la première rédemption était du style Nissan, et la deuxième rédemption va être du style Iya. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, nous avons eu Yom HaAtzmaout pendant le mois de Iya. Et qu'est-ce que c'est que Yom HaAtzmaout ? C'est encore une fois l'action de l'homme qui participe à la sortie d'Égypte un mois auparavant. Et sans ces deux degrés, on ne peut pas recevoir la Torah. Donc l'indépendance du peuple d'Israël sur sa terre passe avant la réception de la Torah. En hébreu, c'est très simple. Deref, eref, kadma la Torah. Dans le pshat, c'est-à-dire que aller vers la terre d'Israël, c'est avant la Torah. Si tu n'as pas compris l'importance de la terre d'Israël, bien ta Torah, c'est une Torah qui plane, qui est virtuelle, mais qui n'a pas d'assise sur terre. Ce n'est pas par hasard que la création de l'État d'Israël, pas de la terre, l'État d'Israël est appelé par le Rav Kook Yesod Kisei Hashem Ba'olam. C'est le fondement du trône céleste dans ce monde. Pas la terre d'Israël, l'État d'Israël. Pourquoi pas la terre ? Parce que la terre, tu peux être assis sur cette terre, mais ne pas avoir de souveraineté. Mais quand tu as une souveraineté, alors tu commences à appliquer réellement la mitzvah de la Torah. Donc il ne s'agit pas d'être un club de juifs sur la terre d'Israël sans être indépendant. Donc la fête de l'indépendance est en réalité la seule première mitzvah de la Torah de monter sur sa terre et de faire une indépendance. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a été dit à Abraham Avinu dans la contraction de l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et lui. « Je veux que tu ailles sur la terre pour fonder une nation sur cette terre, à partir de laquelle les nations du monde seront bénies. Et si tu ne le fais pas, tu resteras un juif religieux n'importe où en exil, qui allume des chanoukiyot de Chanouka, mais ce n'est pas ce qu'il te demande. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a 4 degrés de lecture. Dans toute chose, n'importe quoi. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un, je peux le lire de 4 degrés différents. Quand j'étudie un texte, la même chose. Au niveau du temps, c'est pareil. Chaque temps a un degré de lecture. L'un, c'est le temps qui passe. Il y a des gens, c'est leur métier, ils font passer le temps. On peut faire un sketch de Gad Elmaleh. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais passer le temps. Le matin, il est là, je le fais passer. Le lendemain, je le refais passer. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? J'ai fait passer le temps. C'est une catastrophe. Le temps n'est pas quelque chose qui passe. Le temps, selon la Kabbalah, est un panier d'actions. Selon ce que tu fais dans ta vie, le temps chez toi est différent de l'autre. C'est-à-dire qu'en réalité, notre temps se mesure à ce que nous avons fait pendant ce temps. Et pas parce que les aiguilles de la montre ont tourné. C'est différent complètement. C'est pourquoi que dans français, le mot « temps », il n'y a pas réellement une source de compréhension profonde. Mais en hébreu, comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs degrés de lecture, bien, l'un des degrés de lecture, c'est de comprendre d'où vient la racine du temps. Zeman. Zeman, c'est quoi? Vous l'entendez en hébreu, les hazmin, inviter. Donc le temps est une invitation à l'homme pour changer complètement sa structure par rapport à ce que je fais dans ce temps-là. Donc c'est moi qui remplis ce panier de mes actions, de mes pensées, de mes paroles. Et donc le temps chez moi est différent de celui de quelqu'un d'autre. Et donc nous avons tous des temps différents. Et il faut savoir la lecture des temps. Tout à l'heure, nous allons y revenir. La même chose au niveau des lieux, il faut savoir lire les lieux. Il y a des gens qui vivent sur la terre d'Israël, mais qui n'ont que le premier degré de lecture de cette terre. C'est-à-dire pour eux, c'est sale, c'est pas poli, c'est pas machin, j'ai pas trouvé ça et je trouve pas ça. C'est pas ça la terre d'Israël, ça c'est le premier degré de lecture. Il y a un deuxième degré, un troisième degré et un quatrième degré. Et ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné à ceux qui étudient. Étudier quoi? Eh bien justement, la façon de voir à plusieurs degrés tout ce qui est en face de toi. Quand on voit une œuvre, on peut la lire au premier degré, je vois un cheval, et il y a un deuxième degré, c'est l'allusion que ce cheval vient me donner, troisième degré, c'est un petit peu plus profond, et le secret complet à l'intérieur de cette œuvre-là. Ça n'enlève rien du tout à son aspect premier, mais il y a plusieurs degrés de lecture. Eh bien, la même chose au niveau du temps. Le temps, il faut savoir l'étudier. Nous avons une loi dans la Torah qui nous oblige à étudier le temps. Comment est-ce que cette loi est dite dans la Torah, dans le langage hébraïque? Binu shnot dor vador. Ayez du discernement selon les générations qui passent. Traduction, chaque génération, l'infini béni soit-il, se dévoile selon ce qui se passe durant ce temps-là. Donc si je veux savoir la qualité intrinsèque d'un temps quelconque, je vais voir l'histoire de la Torah, de ce qui s'est passé pendant ce temps-là, pour tirer de là-bas l'information nécessaire. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé dans le mois de Iyar dans lequel nous sommes, c'est que nous sommes dans une guérison de ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Donc nous sommes malades en sortant d'Égypte et nous devons guérir avant d'atteindre la Torah à Shavuot. Vous connaissez tous les initiales du mois de Iyar, Ani Adonai, Rof Echa, je suis l'éternel ton guérisseur. Guérir de quoi? Eh bien du fait que je t'ai fait sortir d'Égypte malgré toi. Tu es un naze et je t'ai fait sortir malgré toi. C'est ce qu'on appelle Pessah. Pessah, ça veut dire quoi en hébreu? Passer outre. Passer outre quoi? Eh bien, ton niveau ridicule. J'étais obligé de ne pas prendre en compte ton niveau. Je l'ai dépassé pour te sauver. Moralité, tu dois me rembourser. Quand est-ce que tu te rembourses? Quand tu deviens toi-même acteur de ta propre délivrance. Donc, quand est-ce que Dieu nous guérit de cette maladie? Ani Adonai Rofecha, les initiales du mois de Iyar. Donc, le mois de Iyar, j'ai une information qui est valable jusqu'à la fin des temps. Je vais un jour guérir de quoi? De cette passivité, de cette religiosité, où j'attends avec la bouche ouverte que quelque chose me descende du ciel, comme vous voyez dans les peintures du Moyen-Âge. Bien, chez les chrétiens, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui attendent qu'on leur remplisse quelque chose. Eh bien, le peuple d'Israël, c'est exactement l'inverse. Il doit voir la réalité comme s'il était lui-même faisant partie du programme divin. Et c'est pas comme si, il est le programme divin. C'est-à-dire que Dieu, dans l'univers, se réalise à travers le peuple d'Israël. Donc lorsque le peuple d'Israël devient actif, eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, « Mitzrou ni banaï, mes enfants m'ont rendu éternel. » Pas ils m'ont battu, ils m'ont rendu éternel. J'ai même plus besoin de faire des efforts, ils font tout le travail à ma place, regardez comme ils ont rendu. Mais quand je dois intervenir pour leur faire des petits miracles à droite, à gauche, Et c'est pour ça que ceux qui attendent les miracles sont malades. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, en somchim al hanes, si tu veux être quelqu'un de saint, n'attends jamais un miracle. Fais les choses toi-même. Arrête d'être passif, arrête d'être quelqu'un qu'on tire, arrête d'être un enfant qui n'a pas grandi. Et c'est ça la grande différence entre la première rédemption, sa sortie d'Égypte, et la dernière rédemption, Yom HaAtzmaout, où c'est le peuple d'Israël qui a pris les choses en main, qui est sorti, qui s'est battu, qui se bat encore, qui construit, qui plante, qui fait pousser, qui fait des infrastructures. Tout ça, c'est en réalité une réalisation divine à travers les hommes que nous sommes, à travers la nation que nous sommes. Et c'est comme ça qu'on devient saint, c'est comme ça qu'on guérit. Ça veut dire que selon l'histoire du peuple juif, on peut voir en réalité les actions divines. Donc Dieu se cache dans l'histoire d'Israël. Comment on dit se cacher ? Esther. Et Dieu s'appelle Yah. Donc Historia. Historia, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui veut dire Dieu se cache dans notre histoire. Donc si vous voulez savoir ce que Dieu fait, regardez ce qu'Israël fait. Un jour on dira, Dieu a reconstruit Jérusalem. Mais en réalité, de facto, qui c'est qui a reconstruit ? Des hommes et des femmes. Mais ça s'appelle Dieu. Un jour on dira, Dieu se posera sur le mont des Oliviers. Mais qui c'est qui s'est posé sur le mont des Oliviers ? Les parachutistes de Tzahal en 1967, lorsqu'ils ont conquis Jérusalem. Et c'est la même chose, toujours pareil. Et c'est toujours Dieu qui fait à travers nous. N'attendez rien qui vient d'en haut. Chas de Shalom, ça c'est de la chrétienté. Les choses chez nous viennent avec notre participation à l'élaboration divine de ce temps. Sinon nous sommes des néo-chrétiens. Moralité, nous devrions savoir ce qui se passe dans le temps avant même qu'il y ait un événement. Mais ça, c'est difficile. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient cette qualité. Par exemple, Abraham fêtait Pessah. Or, je vous rappelle qu'au temps d'Abraham, il n'y avait ni peuple, ni le pharaon, hein, ni l'exil, ni la Torah, ni... Alors, qu'est-ce qu'il fêtait ? Vous avez déjà vu Abraham fêter Pessah ? Eh bien, nous disent les Chachamim, oui. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham le soir de Pessah ? Eh bien tout simplement il sort, il sent, 14 du mois de Nissan. Ce soir c'est une soirée de libération de l'être. Maintenant je ne sais pas ce qui va se passer dans l'histoire, rien du tout. Je sais que ce soir je peux me libérer. Si nous avions cette qualité au niveau de nos sens, on pourrait changer complètement nos vies. Mais on ne sait pas. Encore une fois, le temps passe. Hier c'était un mardi, aujourd'hui mercredi, demain c'est un autre jour. On se dit, ça passe, ça passe. Et tout ce qui nous intéresse, c'est des petits rendez-vous à droite, à gauche, comme ça, qui nous quelques balises pour nous rassurer. Tiens, dans quel restaurant je vais manger tout à l'heure. Waouh, c'est tout ce qui nous reste. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est savoir capter le temps au moment où les choses se passent. C'est-à-dire que même si je t'endors, tu devrais te réveiller d'un coma et de dire « Aujourd'hui c'est Shabbat, aujourd'hui c'est un jeudi. » Ça, on n'est pas capable de le faire. Et c'est ça vers quoi nous allons. C'est-à-dire que nous devrions un jour capter les énergies qui se trouvent dans le temps, dans l'espace-temps et dans les êtres que nous sommes. Si on n'arrive pas, alors on attend l'événement. Alors il y a des événements qui se passent, et le peuple d'Israël capte l'énergie de l'événement. Par exemple, Yom HaAtzmaout, qui se passe le mois de Hé et Iyar, le 5 du mois de Iyar, le peuple juif a capté que c'était le moment où il fallait revenir à l'indépendance. Même si les nations du monde nous disent « Non, c'est pas possible, il va y avoir des gens qui vont s'énerver, les nations vont s'énerver, ne faites pas ça, c'est pas bien, c'est pas beau. » Eh bien, il y a une prophétie qui dit à Ben Gurion, c'est ce soir, c'est pas un autre jour, je sais pas pourquoi, je comprends pas. C'est un vendredi après-midi, 1h30 avant Shabbat, c'est maintenant. Bizarre. Et c'est comme ça, c'est maintenant. Ça veut dire que le peuple juif sait capter les énergies qui se trouvent dans le temps, et l'histoire donnera raison, puisque à Kadosh Baruch Hu, on le voit, il est avec nous dans ce processus. Nous sommes en train de devenir un empire, bien évidemment. Donc ça va en s'améliorant, c'est le pays qui va devenir l'un des plus riches, sinon le plus riche au monde, dans les 20-30 prochaines années. Vous croyez que je suis en train de parler en l'air, mais Bezrat Hashem, nous allons nous rencontrer dans 30 ans, sur la place des Gonzales, et vous allez voir que je ne vous ai pas raconté de bêtises. J'ai même un ami qui travaille dans la bourse en Angleterre, à qui je disais que le shekel va devenir une monnaie très forte, il se moquait de moi il y a 10 ans, et là il rigole jaune. Alors qu'il n'est pas en Chine.
C'est pas la manne qui est arrivée au mois de juillet.
Aussi, la même chose. Manne, qu'est-ce que c'est manne? Manne, c'est pas seulement un pain qui descend du ciel, mais selon la Kabbalah, ça s'appelle Aliyat Man. Aliyat Man, vous étudiez un petit peu, ça veut dire tout simplement un désir. C'est comme si j'étais moi-même en train de donner, comment on dit, aide en français.
Un témoin de moi.
Non, pas aide, aide, avec un aleph. De la buée, de la vapeur qui monte de la terre. Edim. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Aide, ya'ale miha aret, vehishka et kol pnei ha'adama. Lorsqu'il y a une vapeur qui monte vers le ciel, qu'est-ce que c'est que cette vapeur? C'est la future pluie. Donc en réalité, qui amène la pluie? La terre. Mais c'est la même chose. Quand vous faites monter une vapeur, c'est-à-dire un désir, ça vous retombe dessus parce que c'est vous qui l'avez fait. C'est pas que ça nous tombe du ciel. Et c'est ça le véritable travail de l'homme, c'est d'être en fait cette vapeur-là qui fait monter un désir de recevoir de l'infini béni soit-il, et ce désir se transforme lui-même en ce que tu vas recevoir. Et lorsque tu reçois de cette manière-là, tu es heureux. Parce que quand tu reçois quelque chose gratuitement, tu n'es pas heureux. Et tu ne peux pas continuer à recevoir de cette manière. Tu es obligé de faire quelque chose pour recevoir. Ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, l'Echem Bizayon, le pain de la honte. Parce que tu reçois gratuitement. Donc en réalité, la force du mois de Iyar, c'est de voir ou d'entrevoir les actions divines à travers les actions humaines. Donc, de remercier Dieu, par exemple, le jour de Yom HaAtzmaut. Parce que même si on a dans l'apparence du premier regard, de la première lecture, c'est des hommes qui ont fait ça, le Irgun, la Haganah, le Hetzel, et tout ce que vous voulez, si vous n'êtes pas conscient que c'est Dieu qui travaille à travers les hommes, eh bien vous n'allez pas dire le Hallel ce jour-là de Yom HaAtzmaut. Mais ceux qui comprennent que c'est Dieu qui travaille à travers les hommes, disent merci aux hommes et merci à celui qui a travaillé à l'intérieur d'eux. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Et donc nous devons savoir comment appréhender ce degré de participation humaine dans les vêtements qui cachent l'infini, toujours le même infini. Comment est-ce que ça s'appelle cette participation humaine? Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle la Gevura. Gevura, Gevura, Gibor. Qu'est-ce que c'est la Gevura? C'est en réalité ce que l'homme lui-même fait du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Le haut vers le bas, ça s'appelle Chesed, ou Or Yachar, une lumière directe, et du bas vers le haut, ça s'appelle une Gevura. Or, la fin des temps et la rédemption, la Geoula, la Yeshua de Israël, va se faire selon cette sphère de Gevura. Tu vois ce que je sais? Eh bien, vous le dites tous les jours dans la Hamida, mais comme on est devenu des robots, des moulins à parole, alors on ne sait même plus ce qu'on raconte. Eh bien, je vous rappelle, qu'est-ce que vous dites dans la Amida. Ata gibor leolam asher. Mechaye metim ata rav lehoshia. Voilà, lehoshia Yeshua. La Yeshua, la rédemption d'Israël, la Géoula, la venue messianique, ça vient de la sphira de Gevura. Si tu n'es pas gibor à la fin des temps, c'est-à-dire si tu n'es pas participant à ta propre rédemption, tu n'as rien compris à l'histoire d'Israël qui a évolué. Au départ, nous sommes sortis d'Égypte comme des animaux. C'est pour ça que nous apportons comme corban, en sortant d'Égypte, de l'orge. L'orge, c'est un aliment pour les animaux. L'homme ne mange pas de l'orge. À la fin de cette période, nous apportons au Bétamigdash du blé. Là, ça devient humain. Donc nous sommes sortis d'un état animal que les sages appellent Behema. Et on arrive à un degré homme. Alors on est beau, c'est très beau. Qu'est-ce que c'est Behema? Coupez le mot en deux, Behema. Ils sont deux. C'est ça Behema. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'animal est dans une explosion de l'être. Il ne sait pas, il n'a pas conscience de sa propre vie. Il vit. En avançant, on devient Adam. Adam, c'est quoi? Aleph dans le sang. Aleph d'âme. C'est-à-dire tu es sorti d'un monde fractal, d'un monde éparpillé, et tu arrives vers un monde d'unité. Donc toute la force, c'est de savoir voir l'unité des choses. Maintenant, je vous ai dit qu'Akadosh Baruch Hu participe à notre histoire. Alors regardez comment c'est beau, parce que lui-même participe à cette période des 7 semaines du Homer. Alors viens, on va voir si ça marche. Vous savez que les 7 semaines du Homer correspondent aux 7 sphères. Le Chesed, la Gvura, la Tiferet, Nefsach, Hod, Yesod et Malchut. Ne vous effrayez pas des termes. Chesed, c'est la bonté divine, sans te demander quoi que ce soit. Gvura, c'est la difficulté, mais il y a une force. Troisième degré, Tiferet, l'équilibre. Quatrième degré, Nefsach, l'éternité. Cinquième degré, Hod, la beauté. Sixième degré, Yesod, le fondement. Et septième degré, Malchut, la royauté d'Israël. Voyons voir si ça marche. Première semaine du Homer, quelle fête nous fait-on? Pessah. Ah oui. Première semaine du Homer, c'est Pessah. Ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ben oui. Dieu nous a fait une bonté sans nous demander quoi que ce soit. C'est moi qui travaille. Ok, on a passé la première semaine. Pas très sympathique parce qu'il travaille à notre place. Deuxième semaine, la Gevura. Qu'est-ce que nous avons mentionné la deuxième semaine? Yom HaShoah Veha Gevura. C'est incroyable ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une difficulté pour revenir sur notre terre. Il y a eu des pertes, on a perdu des plumes, on a laissé beaucoup de choses. Mais c'est un début de participation humaine. Pour arriver à quoi? Troisième semaine, Tiferet. Qu'est-ce que c'est Tiferet? Yom HaAtzmaout, c'est incroyable, troisième semaine. Pourquoi ça tombe à Tiferet? Parce que Tiferet, je vous l'ai dit, c'était la thérapie. C'était le centre. Tiferet vient du mot Rofé. Le mot Rofé est à l'intérieur du mot Tiferet. C'est-à-dire quelqu'un de sain, c'est quelqu'un d'équilibré dans son corps. Dès qu'il y a un déséquilibre d'une force par rapport à une autre, il y a maladie. Donc quelle est la réfoua, la guérison de toutes les maladies? L'état d'Israël. Parce que Israël revient à sa souveraineté. Tiferet, troisième semaine. Quatrième semaine, Netzach. Qu'est-ce que c'est Netzach? Moshe Rabbeinu. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est l'éternité. C'est celui qui a reçu la Torah. Le jour de Netzach chez Ben Netzach, c'est-à-dire le quatrième jour de la quatrième semaine, c'est un jour très très spécial qui correspond à qui? À Aaron et à Herzl. C'est la même chose. Vous savez qu'à la Knesset, c'est la naissance d'Herzl. C'est son anniversaire. Oui, c'est très bizarre quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier qui nous a fait sortir d'Égypte est rencontré dans le même jour avec le dernier qui nous a fait rentrer en terre d'Israël. Ah, le premier, Moshe Rabbeinu, c'est super, mais Herzl, c'est quoi? Un bidon? Pas du tout. Le Rav Kook, quand il est allé faire l'oraison funèbre de Herzl, il a traité de Mashiach ben Yosef. Pas moins que ça. C'est-à-dire qu'il a vu dans cette montagne d'ombre, parce que Herzl c'est Har-Shel-Tel, Har-Tel, une montagne d'ombre, tu vois rien. Il a vu le Rédempteur d'Israël, celui qui a vu, qui a prévu l'État d'Israël, alors que tous les religieux n'ont même pas rêvé qu'un jour on reviendrait dans une indépendance. Bizarre quand même. Ça fait de la peine, c'est toujours les religieux qui voient les choses en dernier. Malheureusement. Après, il y a eu la cinquième semaine, Hod. Hod, c'est quoi? Rabbi Shimon Bar Yochai, la semaine prochaine. Hod, Shebehod. Le cinquième jour de la cinquième semaine, Nous avons l'Agba Omer. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Agba Omer? Qu'est-ce qu'il était, Rabbi Shimon? C'était qui ce type? Qu'est-ce qu'il faisait? Un kabbaliste? C'était un combattant, c'était un guerrier, Rabotai. Et ça, malheureusement, les gens ne le savent pas. Il a combattu toute sa vie pour une seule chose, pour Yom HaAtzmaout. C'est tout. Mais comme ça ne pouvait pas marcher à son époque, et qu'il a préparé tout le programme de Yom HaAtzmaout, parce qu'il fait partie de la deuxième couche d'élèves de Rabbi Akiva, car la première couche est morte pendant la révolte de Bar Kokhba, où il y a eu 1 million de morts en Israël, sans compter les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. 1 million de morts. Donc la révolte a échoué, mais c'était en réalité une révolte de quoi? Pour faire quoi? Pour redevenir indépendant. Quand est-ce que ça s'est fait? Au mois de Iyar. Donc nous, aujourd'hui, à notre époque, on a refait la même révolte, mais cette fois-ci, nous avons réussi. Donc Yom HaAtzmaout, c'est la correction de la mérite de Bar Kokhba, de la révolte de Bar Kokhba. Donc moralité, tout ce qui a amené au deuil est censé aujourd'hui déjà disparaître. Seulement, on n'a pas encore le courage de changer la halakha. Donc tous les gens qui ont l'impression qu'on est dans une période de deuil, on a l'impression que c'est bien, le deuil ça fait bien, c'est juif. Bon, c'est de pleurer tout le temps. Dès qu'il y a un jour de joie à l'intérieur, tu te poses la question. Il y a un imbécile, parce que je ne peux pas dire autrement, qui vient me dire, j'aimerais bien fêter Yom HaAtzmaout, mais ça tombe pendant le Homer. Je lui dis, mince, alors à sa dose, bon, ils sont encore plantés. Il nous fait des jours de joie comme ça. Je comprends que tu as envie d'investir dans le deuil toute la vie. Mais un jour ça va changer, mon frère. Il y a une mentalité d'exil où quand c'est le deuil, quand c'est la difficulté, on a l'impression qu'on est un bon juif. Il faut arrêter avec ce système-là, c'est pas ça. Ça c'est tout ce degré. Donc nous sommes dans le Hod, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc quel était le but de Rabbi Shimon? Malchut Israël. D'ailleurs, Hod chez Hod au niveau des Sphirot, c'est la Sphira qui pense à la Malchut. Dans le couple, c'est l'homme qui se soucie de la femme. Il y a des hommes qui ont du mal. Ils veulent dominer l'arma par des choses qui n'ont aucun rapport avec la vraie vie. C'est-à-dire, la femme, elle prend une décision, le mec, il dit, non, comment tu as pris une décision? C'est à moi. C'est moi qui dois prendre. Est-ce que tu penses à elle ou est-ce que tu penses à ton ego, à toi? Si ça la soulage, si ça lui fait du bien. Mais c'est la même chose. Rabbi Shimon Bar Yochai ne pense qu'à une seule chose. À son épouse. Qui c'est l'épouse? La royauté d'Israël. D'ailleurs, si on faisait tous les mitzvot de cette manière-là, ça changerait complètement. Ouais. Même quand on fait les mitzvot, on a l'impression qu'on les fait pour nous. Il y a un problème avec ça. Il faut faire les mitzvot pour une seule raison, Rabotai. Une seule. Pour qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile sur terre. C'est tout. Si c'est ça ton vrai souci, tu marcheras, tu réussiras. Aujourd'hui, j'ai enseigné au Machon Meir, hier, à mes élèves, que si tu veux réussir même dans la Torah, ton étude doit être de cette catégorie-là. Pas une étude pour qu'on t'appelle rabbin, mais une étude pour faire descendre les valeurs de Dieu sur terre. Si tu veux te faire appeler rabbin, c'est ça qui t'intéresse, le kavod qu'on va te donner, qu'on va t'embrasser la main, il y a marqué clairement dans le texte, « Kol ha'odeh achar ha'kavod, ha'kavod boreach mimeno ». Si qu'on veut qu'on lui donne des honneurs, l'honneur se sauve de lui. Et ceux qui se sauvent de l'honneur, l'honneur les poursuit. C'est un type qui a essayé un jour, qui vient de me dire, écoute, je me suis toujours sauvé du bonheur, mais il ne m'a jamais poursuivi. Ça ne marche pas ton truc. J'ai dit, ouais, parce que quand tu marchais, tu regardais derrière. Donc en fait, il y a un orgueilleux caché. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est cette force-là. Sixième semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? L'apparition du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Qu'est-ce qui nous a laissé ce Ramchal-là? La même chose que Rabbi Shimon, mais un petit peu plus proche de la royauté. C'est-à-dire que Rabbi Shimon a traité le mot clé premier de la Torah, Bereshit. Et le Ramchal est allé traiter le dernier mot de la Torah. Quel est le dernier mot de la Torah? Israël. Donc en réalité, vous prenez le premier mot, le dernier mot, c'est Bereshit Israël. Eh bien, chacun a fait 70 arrangements. Un sur le premier mot, Bereshit, et l'autre sur le dernier mot, Israël. Donc Israël, c'est la royauté, le Ramchal est venu. Et quelle est sa sphère? Yesod Sheba Yesod. C'est-à-dire la sixième journée de la sixième semaine. Incroyable! Ils sont tous comme ça. Donc Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre une Neshama pour nous faire ça. Et la septième semaine, la dernière, avant la fête de Shavuot, c'est Malkout. Donc qu'est-ce que c'est que Malkout? Yom Yerushalayim. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, descend dans notre histoire et nous donne Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de la royauté. D'où est-ce que je sais? Vous le dites dans les Hadoudis. Mikdash Melech, Ir Melucha, la ville du royaume de Dieu. Eh bien, quand est-ce que c'est apparu? La septième semaine, au moment où c'est la royauté. C'est incroyable quand même, Akadosh Baruch Hu est bel et bien dans notre histoire. Et nous, on ne croyait pas. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu intervient dans l'histoire selon les semaines qui correspondent à la chose en question. C'est pas n'importe quoi. Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu lui-même évolue pendant Sphirat HaOmer. Alors, quand nous, on compte le Homer, on a l'impression qu'on est des imbéciles. Hein? Aïe, tu dis un chiffre, après tu dis, attends, je vais voir si je me trompe pas, ça fait telle semaine plus trois jours. Waouh, tu es un bon. Et franchement, vous croyez qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'a rien à faire de nous donner des comptes. À faire des comptes. C'est quoi ce compte? Bien, en hébreu, il est fort. C'est comment en français? Tu comptes pour moi. Quand tu comptes pour moi, ça veut dire que je te prends en compte. C'est bizarre quand même. Hein? En hébreu aussi, un iloker osra de cheshbon. Ani sofer otra. Inversement, ani lo sofer otra. J'en ai rien à faire de toi, pour dire pas dire autre chose. C'est incroyable ça, je te calcule pas, calculer. Mais c'est la même chose. Donc la sphira du Homer, elle vient pas pour nous donner n'importe quoi des comptes, pour savoir jusqu'à quand je compte, non. Je dois en réalité évoluer dans mon être et corriger toutes mes vertus, c'est-à-dire la première semaine du Homer, je dois être dans le don. La deuxième semaine du Homer, je dois être dans les mesures. La troisième, je dois être dans l'équilibre. La quatrième, je dois être dans l'éternité, c'est-à-dire faire les choses d'une manière continuelle, ne pas arrêter. Cinquième degré, cinquième semaine, faire les choses belles. Même si tu fais une mitzvah, même si tu fais quoi que ce soit, fais le bien. Sixième semaine, fondement, c'est-à-dire faire attention de tout canaliser, de te regrouper pour faire descendre tout le flux vers la septième semaine qui est la Malchut. Et une fois que tu as atteint la Malchut, qui est la royauté de Dieu sur terre, par un entonnoir, eh bien, un jour après, c'est-à-dire on rentre dans la huitième semaine, et le premier jour de la huitième semaine qui n'est pas dans les comptes, vous rappelez, c'est Shavuot. Donc Shavuot, c'est du chiffre 50. C'est de l'ordre du chiffre 50, au-delà du temps, au-delà de tout. Et pourquoi? Parce que ce jour-là, nous avons reçu la Torah. Oui ou non? Oui? Non. On nous l'a donné, on l'a pas reçu. C'est différent. Jamais on a marqué dans aucun livre de prière Yom Kabbalat Toratenu. Il y a marqué Zman Matan Toratenu. Alors Shavuot, on nous a donné la Torah. Malheureusement, au moment où moi je te donne quelque chose, le temps que toi tu le reçoives, il peut se passer 1000 ans. Ben oui. C'est comme ça toujours. Il y a toujours un décalage entre le donneur et le receveur. Tiens, j'ai donné un livre à un bar mitzvah, il n'a jamais ouvert. On a eu le temps même de changer de la monnaie parce qu'à l'intérieur, il y avait 500 shekels. C'est seulement comme c'était des anciens billets, ils sont plus valables aujourd'hui. Alors que pendant qu'il avait... Moi, c'était un test pour savoir si un jour il allait ouvrir ce livre. Donc il ne m'a jamais dit, parce qu'il s'est dit, ce tonton-là, c'est un radin. Il m'a donné un bouquin, tous les autres m'ont donné des trucs. Et le jour où il a trouvé, parce qu'il était un petit peu angoissé, donc il s'est dit, tiens, je vais ouvrir un petit peu ce livre, parce que les livres de Torah, on les ouvre que quand on est angoissé. C'est-à-dire quand on n'a pas l'habitude d'étudier. Alors il a ouvert, il s'est dit, oh, le tonton radin, il m'a donné de l'argent, mais c'était trop tard. Tu ne l'as pas ouvert. Alors il m'a téléphoné 10 ans plus tard, après sa bar mitzvah. Il m'a dit, merci tonton. Il dit, de quoi? Moi j'avais oublié. J'ai dit, ah, tu viens d'ouvrir le livre, Baruch HaShem. Donc, tu veux que je te change la monnaie en nouveau billet? Ça, c'est en réalité toute cette période du Homer. Donc vous voyez qu'en réalité, il y a ici un souci de ne pas vivre sous une souveraineté étrangère sur notre terre. Et c'est ça, en fait, toute la révolte de Bar Kokhba, parce qu'il y avait l'Empire romain qui dominait la terre d'Israël, et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est insupportable pour lui, comme c'est insupportable pour les kabbalistes. Pourquoi ? Parce que les kabbalistes, leur seul souci, c'est justement de fonder le royaume d'Israël sur terre. Et s'il y a une domination étrangère sur cette terre, on n'a rien fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai ? Il a commencé à vouloir travailler, au moment où on a voulu l'arrêter, pour le tuer, il s'est sauvé. Il s'est caché dans une caverne, et il avait tout un plan pour faire cet état, mais il était seul. Donc il a mis tout ce plan dans une boîte de conserve. Et il a fermé, jusqu'à la fin des temps. Comment ça s'appelle cette boîte ? Le Zohar HaKadosh. Toute la boîte du Zohar HaKadosh, c'est le livre du Zohar qu'il a fermé dans une boîte, et aujourd'hui, on doit ouvrir cette boîte, c'est avec cette boîte que le royaume d'Israël est en train de revenir, et ce n'est pas un hasard, parce que de plus en plus d'hommes et de femmes étudient maintenant cette Torah, et c'est pour ça que l'État d'Israël est en train de réussir bien une heure. Ça veut dire que, quel rapport entre le Zohar et la terre d'Israël ? Tout simplement, c'est l'apprentissage d'une vision globale de l'existence, et non pas une vision étriquée qui fait sortir seulement des détails. Quand tu fais sortir un détail, et tu ne sais pas qu'il vient d'un tout, tu as oublié le tout, tu as perdu déjà d'avance. On se dit, qu'est-ce que c'est qu'un rayon ? Tu me poses naturellement la question, un rayon de quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas qu'il s'agit d'un rayon de soleil, ça peut être un rayon de vélo. Ça peut être un rayon de je ne sais pas quoi. Donc, un rayon de magasin. Ça veut dire qu'en réalité, je dois savoir à quoi appartient cette chose-là. Alors, messieurs, surtout vous, aujourd'hui, quand vous étudiez, votre étude doit devenir de plus en plus large. Il ne faut pas voir ce que toi, tu as envie de voir et tu mets en valeur un degré parmi tout le reste. C'est le travail des journalistes aujourd'hui, les mauvais. Ils font sortir juste un petit degré et ils te cachent tout le reste. Il y avait une image magnifique il y a 2 semaines d'une famille palestinienne en train de courir parce que les soldats d'Israël tiraient, donc en gros plan, tu vois le père, la mère avec les enfants en train de courir. Et le titre, magnifique, regardez ce que les Israéliens provoquent aux Arabes. Malheureusement, le type qui a pris la photo, il a imprimé la vraie photo. C'est le photographe. Juste à côté, il y avait encore une autre famille. Notre famille jouait au foot. Incroyable. Ça vous fait rire ? Moi, ça m'a fait pleurer. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on nous rabaisse dans le monde, en nous faisant croire que les balles israéliennes, alors qu'ils sont en train de jouer. C'est ça. Et c'est ça la même chose dans la Torah, Rabotai. Si vous ne savez pas associer le détail que vous êtes en train d'étudier au tout, vous avez une vision étriquée. Le secret de cette Torah, de la Kabbalah, c'est justement comment recevoir. C'est son nom, les Kabbalah, Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir ? Recevoir ce que la Kadosh Baruch Hu a à nous donner. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas recevoir, qui savent plus donner que recevoir. C'est plus difficile de recevoir que de donner, vous savez. Il y a des gens, leur faiblesse, c'est pas de ne pas savoir donner. Ils donnent, mais ils ne savent pas recevoir. C'est incroyable. Pour recevoir, il faut faire un travail. Recevoir, c'est pas seulement recevoir un cadeau. C'est qu'on se dit, par exemple, t'es belle, t'es intelligente, tu es beau, tu es un tel mitrachin. Et la première réaction, c'est non, non. Ça, c'est un manque de savoir recevoir. On peut pas me dire une chose pareille, ça me gêne. Mais il faut faire attention avec ça, Rabotai. Recevoir, c'est un métier. C'est un travail. Nous sommes avant tout des receveurs. Nous sommes nés receveurs du grand patron. Et si tu n'acceptes pas ta condition première d'être celui qui reçoit, tu ne pourras jamais donner. Et donc le système, c'est pas de donner, c'est de recevoir pour donner. Mais avant tout, de savoir que tu es un récepteur. Et les sages nous disent dans la Kabbalah que toute la Torah de la Kabbalah, c'est comment être un bon réceptacle, comment recevoir. Je dois savoir recevoir ce qu'on me dit. Je dois savoir accepter les choses, les écouter. Et quand je reçois en réalité, je m'aperçois qu'Akadosh Baruch Hu est en train de travailler dans un monde, même en cachette, même d'une manière qui est habillée dans les événements de l'histoire. Et les kabbalistes sont les spécialistes de ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les derniers des prophètes. C'est les premiers des prophètes. Quand la prophétie s'est arrêtée, les kabbalistes ont pris le relais. Et quand la prophétie va revenir, c'est grâce aux kabbalistes qui sont justement le trait d'union entre la fin de la prophétie et son renouvellement. C'est clair? Ah, ça faisait longtemps!
Je suis là, merci d'avoir entendu. Une petite explication.
Quoi?
Savoir.
Recevoir.
C'est-à-dire savoir donner suite à ce qu'on a reçu.
Ça, d'abord, c'est d'être d'abord en condition de réceptacle. Ça veut dire tout simplement, être à la mesure de ce qu'on est en train de me donner. C'est-à-dire que si je veux remplir un verre de thé chaud, il faut que le verre supporte le liquide chaud qui est en train d'être versé en lui. Il a fait. Le maximum, c'est justement que ce verre de thé, une fois qu'il a reçu, partage avec les autres.
C'est ce que je dis, donner suite.
Exactement. Mais avant de donner suite, il faut d'abord recevoir. Et si tu ne reçois pas, tu peux te prendre un jour pour l'Éternel lui-même. C'est-à-dire, je suis un donneur. Mais tu es d'abord un receveur avant d'être donneur. Et là, ça te remet vraiment au niveau de l'humilité. Eh bien, c'est exactement ce que les kabbalistes nous disent. Et pourquoi c'est important de voir Dieu dans la nature cachée? Eh bien, justement, pour ne pas rentrer dans le désespoir que Dieu a abandonné ce monde. Et tous les gens pessimistes, c'est en réalité l'arrière-arrière-pensée. C'est que Dieu a abandonné ce monde. Et comme Dieu a abandonné ce monde est à la dérive, il n'a aucune direction. Chacun doit, sauf qui peut, après moi le déluge, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien du tout. Donc je peux faire tout ce que je veux parce que je ne fais que survivre, je ne vis pas. Et les kabbalistes nous disent non, Dieu intervient dans le monde, Dieu nous aime. J'ai fait un exercice dans une classe avec des jeunes. Un jour, j'ai voyagé en France, à Nice, et on m'a fait rentrer dans une école, et je devais leur donner une leçon en 20 minutes. C'est court. Alors, je leur ai dit vite, « Shalom, je suis Yoël, dis-moi ce que tu veux le plus dans ta vie. » Quitte directement, je n'avais pas de temps à perdre. Et il m'a dit, « Je veux une belle bagnole décapotable. » J'ai marqué, « Belle bagnole décapotable. » Toi, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, « Moi, j'aime les filles. » Tiens, les filles. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime les chaussures, Adidas, machin. Toi, c'est quoi, c'est le machin? Et j'ai fait une liste comme ça. Et je suis revenu chez le type. Je lui dis, « Pourquoi tu voulais une décapotable ?» Il me dit, « Parce que c'est la prime. » Alors, j'ai effacé « décapotable », j'ai marqué, « Je veux de la prime. » Vous avez compris? Le deuxième, il m'a, je lui dis, « Pourquoi tu veux les femmes ?» Il m'a dit, « Parce que... » J'ai effacé, j'ai marqué la deuxième chose. Et j'ai effacé, et effacé, et effacé, et effacé. Et toute la liste, c'était la même chose. Je veux qu'on m'aime. C'était ça, la fin. Et je leur ai dit, vous voyez, vous avez tous une seule souffrance dans ce monde, vous avez l'impression que vous n'êtes pas aimé. Et c'est ça que vous cherchez. Un par sa décapotable, un par son, sa chaussure, un par son truc. Mais c'est exactement ça. Et nous, nous ne sommes pas là, nous sommes dans une conviction qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Si vous n'avez pas cette conviction, c'est une maladie à guérir immédiatement. Quand? Le mois de Iyar. Ani Adonai Rofecha. Je suis là pour te guérir. Il y a quelqu'un qui pense à nous. Il y a quelqu'un qui surveille ce monde. Il y a quelqu'un qui fait évoluer l'histoire. Il faut le voir. Si vous ne voyez pas cette histoire, si vous ne voyez pas l'évolution, dans un film accéléré, je peux vous faire voir ce qu'on a vécu il y a 70 ans et maintenant en 10 minutes. Vous allez tous pleurer. Vous ne vous rendez même pas compte, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est même pas compréhensible au cerveau humain ce qu'on a vécu ici. C'est un miracle permanent. Tout ça parce qu'on vit au jour le jour, on fait passer le temps. Et on n'arrive pas à comprendre qu'il y a un cheminement divin à travers nos actions. Ça, c'est ce que la Kabbalah vient nous enseigner. C'est-à-dire que, approfondis ta vie, vois comment je suis là, je ne t'ai jamais lâché. Vous connaissez l'histoire de celui qui dit qu'il marchait avec son fils. Avec les pas, vous connaissez cette histoire? Et le type, l'enfant voit des pas, il dit à Kadosh Baruch Hu, je te vois plus, je vois que deux pas. Il dit, Hamar, c'est moi qui te porte. Les deux pas que tu vois, c'est les miens, je te porte dans, dans mes bras depuis des années, de quoi tu parles, tu crois que tu es tout seul. On n'est pas tout seul, Rabotai. Personne n'est tout seul. Et au niveau de l'individualité, et au niveau du tout, c'est pas possible. Il y a une direction ici. Il y a un sens. Et c'est ça que la Torah des secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai est venue nous donner. Rabbi Shimon Bar Yochai a décidé de quitter ce monde dans cette sphère qui est Hod Sheberod. Hod Sheberod, ça veut dire c'est un switch. Il y a des sphères supérieures, il y a des sphères inférieures. Et le Hod Sheberod, c'est juste le passage. Pourquoi? Parce que toute la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de faire descendre le feu de Dieu sur terre. D'ailleurs, c'est le seul feu qui touche le parterre. Même à Hanouka, on n'a pas le droit d'allumer un feu à moins de 3 poignées du sol. C'est pour ça que la Hanoukia est à cette hauteur-là. Mais le jour de l'Ag BaOmer, le feu est à même le sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi à faire descendre les lumières les plus élevées aux degrés les plus bas. Et qui va faire ces feux-là? Les enfants. Les enfants intuitivement. Et vous savez pourquoi? Rabbi Shimon Bar Yochai l'a dit lui-même. Kilo tishakar mipi zara'o. Je veux que la Torah ne soit pas oubliée par nos enfants et nos petits-enfants. Et si vous prenez la fin des mots, kilo alef tishakar chet mipi yud zara'o vav, je viens d'écrire le mot Yochai. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la garantie que la Torah puisse continuer, se faire ses traits chez nos enfants et chez nos petits-enfants. Et c'est ça l'essentiel du peuple d'Israël. C'est pas d'avoir simple des connaissances à droite, à gauche, c'est important les connaissances. Mais si vous ne connaissez pas votre propre identité, et vous perdez votre vie à savoir des identités d'étrangers, comment vous pouvez travailler? C'est pas possible. Avant d'étudier, avant de faire quoi que ce soit dans ma vie, je dois savoir qui je suis. C'est une honte de ne pas savoir qui je suis. Je dois faire un doctorat sur ma condition Israël. Si je n'ai pas étudié qui est Israël, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? Et tout ça, c'est Koach Ma'asav Yigid Le'amo. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu agit dans ce monde, Koach Ma'asav, le potentiel de ses actions divines, qui guide, qui les a fait conduire, comme guider, les hameaux par son peuple. Nous sommes, le peuple d'Israël, les acteurs du rêve d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a rêvé d'un monde et nous sommes les acteurs qui réalisent son rêve. Et si vous voulez voir Dieu dans l'histoire, regardez-le dans l'histoire d'Israël, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je termine en disant qu'Israël ressemble à l'épouse de Dieu. C'est notre plus haut niveau. Nous étions au début des esclaves, après nous étions des enfants, et maintenant nous sommes en train de devenir son épouse. C'est-à-dire qu'il y a un changement de lien. Quand on est des esclaves, on fait parce qu'on va recevoir une punition. Quand on est des enfants, on fait, mais c'est filial, je ne peux pas faire autrement. Et quand tu es l'épouse, tu peux tous les jours partir, et tu choisis de rester. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes face à Akadosh Baruch Hu comme une épouse par à son époux. Qui chaque jour qu'elle est avec lui et qu'il est avec elle, c'est par choix. Et quel est ce degré d'époux? C'est de languir le contact avec son mari et son épouse. Eh bien, la femme, lorsqu'elle est dans sa période de Nida, elle compte. Combien elle compte? 7 jours. C'est la même chose. Ressafra la Shiva Yamin. Et nous, en tant que peuple, Usfartem lachem Shiva Shavuot. Pourquoi on compte 7 semaines et la femme ne compte que 7 jours? Parce qu'au niveau de la nation, c'est plus difficile. Eh bien, ces 7 semaines sont comme le compte de l'Anida. Qu'est-ce que c'est l'Anida? Que veut dire le mot Nida en français? Pas? Qu'est-ce que ça veut dire Nida? Non. Isolé. Lenadot en hébreu. Mazel Enadot, mettre en quarantaine. Nidoui. Donc la Nida, c'est comme si elle a été écartée, repoussée par son mari. Pendant quelle période? Pendant la période de l'exil. Et qu'est-ce qu'elle doit faire pendant cette période? Elle doit compter les jours pour revenir, comme la femme qui compte les jours pour aller se tremper au mikvé. C'est le jour de Shavuot, c'est la nuit du mikvé. D'ailleurs, les kabbalistes, la nuit de Shavuot, vers 4h du matin, vont se tremper au mikvé, parce que c'est la mariée qui va retrouver son mari le lendemain pendant la fête de Shavuot. Et c'est ça, en réalité, toute la Sphira du Homer. Et toute cette Sphira du Homer est un long cheminement d'une histoire d'amour entre l'épouse et l'époux. Et donc nous avons cette information qui nous donne de l'espoir. Dernier degré, le jour de l'Akba Omer, la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est passé quelque chose de très important que le Midrash nous raconte. C'est que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. C'est-à-dire ils sont morts jusqu'à l'Akba Omer. À l'Akba Omer, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Akba Omer a une capacité de transformer la mort en vie. C'est-à-dire d'arrêter le processus de la mort. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai vient nous dire, et cette information est très importante pour moi, d'ailleurs c'est quel jour dans le mois de Iyar? Non, ça c'est le Omer. Du Omer. Oui, du Omer. Mais le mois de Iyar, c'est quel jour? Le 18. Chai, la vie. Chai be'Iya, c'est-à-dire le 18, la vie dans Iya, elle a annulé la mort. Et qu'est-ce que c'est qu'annuler la mort? Mais vous comprenez que ce n'est pas seulement annuler la mort, c'est annuler la dépression, annuler l'angoisse, annuler la peine, annuler le désespoir que personne n'a rien à faire de nous, on est là, on est paumé dans ce monde. Pas du tout. Tout ça, c'est absurde de croire ça en tant qu'enfant d'Israël. Nous sommes conduits par l'Éternel, mais il nous demande d'être nous-mêmes des acteurs de notre propre degré. Et tant que nous n'avons pas réussi à trouver ça, Rabotai, nous sommes dans la préhistoire. Vous savez quand est-ce que va commencer l'histoire? La vraie? Au moment du Mashiach. Vous saviez ça? Du dévoilement messianique. Aujourd'hui, nous sommes dans une préhistoire. On n'a pas encore commencé, nous sommes des hommes préhistoriques. La vraie histoire commence au moment du messianisme d'Israël. Et ça, ça a déjà commencé. Il y a 70 ans, je ne parle pas du monsieur Mashiach, je parle de la Géoula qui a déjà commencé depuis 70 ans, et nous sommes en plein dedans. Maintenant seulement, nous sommes en train de rentrer dans l'histoire, et c'est pour ça que les nations du monde ne peuvent pas faire autrement que de nous écouter. Petit secret que vous ne savez peut-être pas, le jour de Yom HaAtzmaout, l'Iran devait nous tirer dessus. Vous saviez? Le jour de Yom HaAtzmaout, l'Iran devait nous tirer dessus. Le lendemain, tremblement de terre en Iran, un vent de sable qui a couvert tous les édifices là-bas et tout leur système est tombé en panne. Moi, je me demande s'il y a un patron vraiment qui dit ça. Pas possible. Ah oui, mais vous allez me dire, c'est les petits génies là de 20 ans, 18 ans israéliens qui rentrent et qui lui font des bugs partout. C'est pas grave, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi il a donné cette intelligence à ce genre de petits jeunes de rien du tout qui sont en train de vendre des startups à 3 milliards? Un petit gosse de 18 ans qui te faut 10 vies pour travailler, tu n'arrives même pas à ce qu'il fait. Pourquoi? C'est d'où il sort? C'est quoi? C'est une nouvelle génération? C'est un nouveau genre de personne? Ben oui. Tous les bébés qui naissent maintenant, c'est de nouvelles neshamot qui n'ont jamais existé dans ce monde, qui ne sont jamais venues. Ce n'est pas des réincarnations. Tous les bébés qui sont nés à partir de la guerre des six jours, ce sont de nouvelles neshamot. Il y a des secrets qu'on ne connaît même pas. Juste pour vous donner un petit peu cette force de comprendre que nous sommes véritablement dans le dernier cheminement de notre rédemption. Et ce n'est pas notre rédemption à nous parce qu'on n'est pas des égoïstes. Notre judaïsme est international. C'est-à-dire que c'est une lumière qui est pour les nations du monde. Elle n'est pas seulement pour nous. Elle est là pour nous parce que c'est nous les détenteurs de ce message, c'est nous les porte-parole. mais cette parole doit être diffusée vers les nations, et c'est ce que nous sommes en train de faire à partir d'ici. C'est que de Jérusalem ça peut se faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc on est là, Baruch HaShem. Ne vous angoissez pas. On est dans la bonne direction. Vous êtes monté sur le bon bateau. De l'autre côté, c'est le Titanic. Je rigole pas, ça fait de la peine. Ils sont en train de jouer au violon. Vous avez des hommes qui baisent les mains des femmes et tout, avec des assiettes, des nœuds papillons et tout, mais ils sont tous en train de couler. Alors qu'ici, nous sommes en train de vivre. Un jour, le Rav Kook, un jour, un rabbin de Koutar est venu le voir en lui disant « Le juif, il souffre de partout, mon cher Rav Kook. Alors que je sois ici en Israël, ou que j'habite Paris ou Londres, c'est pareil. On est tous dans la souffrance. » Le Rav Kook lui dit « Ouais, t'as raison, mon frère. Mais tu sais à quoi ça ressemble ? À deux femmes qui sont allongées, couchées dans une chambre d'hôpital, et toutes les deux, elles poussent des cris. Seulement, il y a une grande différence. Une est agonisante, et une est en train de donner la vie. » Toda Rabba.
Bien.
Il faut d'abord chercher, essayer de comprendre le changement, et après,
mais sûr que
c'est trop facile d'aller directement voir ce qu'il a dit.
Même quand on nous apprend à étudier la Gemara.
Justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a mon fils, Rav Yoel, Nekouda. Rav Yoel, Nekouda, comme. Il y a plein de cours qui vont sortir de 2 minutes, même pas 1 minute. Il y a plein de cours de 1 minute. Merci beaucoup. Merci. Toda Rabba. On ne supporte pas l'idée que tu puisses oublier une chose. C'est éducatif en fait. Enfin, c'est pas possible que tu oublies. C'est pas normal. Pourquoi les questions?
J'ai raté le début. Alors, ce que tu as dit au début, le message est donc la démocratisation de nos valeurs. Tout à fait. À l'industrie, la vulgarisation, comme on dit.
Exactement.
En bon sens.
Exactement. C'est ça, je ne veux pas laisser les choses en l'air.
Mais j'ai beaucoup aimé le passage que tu as dit. Si tout ce qu'on a donne de la valeur ajoutée. Ce qui est donné comme ça gratuitement.
Exactement. On n'a pas de valeur. Merci
beaucoup. Parce que justement, ce qu'il dit, c'est chanazé.
Bon. De quoi?
Il dit Shana Ba Yerushalayim.
Ah, non, on ne dit pas ça, on dit le Shana Haba Yerushalayim Habibiyah, c'est pas pareil.
Bien sûr, excuse-moi, j'étais un peu en retard.
Parce
que je n'ai pas WhatsApp.
Oui.
Alors, j'irai mon envoyer un mot, ça n'aura pas lieu le 24. Ah. Et puis, beaucoup plus tard, Marie-France m'envoie un mail. Ah. On t'attend, c'est pas encore venu. Sors dans ta voiture.
C'est Marie-France, alors. C'est Marie-France, alors. C'est Marie-France, alors. C'est enregistré. C'est enregistré. J'ai écrit 5 derniers livres. Vous avez acheté ces 5 livres, il y a encore un nouveau qui vient sortir.